Bonjour à toutes et à tous. Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Isabelle Candel, psychiatre spécialisée dans les mémoires transgénérationnelles pour les femmes. Vous allez apprendre à connaître Isabelle durant notre échange et ce n'est pas pour rien que je l'ai invitée à mon micro puisque j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle fera partie de mon équipe de coach pour les deux immersions Aloha qui vont se dérouler en juin et en septembre de cette année. Elle va animer l'atelier des mémoires transgénérationnelles. J'ai trop hâte. Pour celles qui ne savent pas encore ce que c'est, Aloha, c'est les immersions que j'organise deux fois par an sur l'île du Levant dans le Var pour aider les femmes à prendre du temps pour elles et à se créer une vie qui les inspire grâce à la méthode Aloha que j'ai créée. Et je suis accompagnée d'une équipe d'expertes dans les domaines du mindset, de l'alimentation, du corps et de l'amour de soi. Je vais vous mettre en barre d'infos le site si vous voulez en savoir plus et envoyez-moi un message sur mon compte Instagram Aloha intitulé Marielle-Caso-Aloha. Pareil, je vous mets le lien en description si vous souhaitez être contacté par mon équipe pour participer. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être au courant de l'actualité des immersions Aloha. Ensemble, on aborde différents sujets. On va parler des rêves et de ce que notre inconscient nous envoie comme message pendant notre sommeil. Nous allons décrypter ce que sont les mémoires transgénérationnelles et les conséquences que l'on peut vivre dans notre quotidien si on ne s'en libère pas. Et puis, on va expliquer comment Isabelle aide ses patientes à s'en détacher. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Isabelle Candel. Bonjour Isabelle.
Bonjour Marielle.
Bienvenue sur Muffin Game.
Merci, je suis ravie d'être là.
Moi aussi. Ça me fait très plaisir. Très très heureuse de te recevoir et de recevoir une experte comme toi sur le podcast parce que c'est un sujet juste passionnant et je connais pas d'autres expertes sur ce sujet donc je pense que on va boire tes paroles. Alors on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Peux-tu nous dire qui tu es, Isabelle?
Alors, moi, je suis une femme qui a eu la chance d'avoir plusieurs étapes dans sa vie, professionnellement et en amour aussi. Et ça, c'est très important d'avoir les deux dimensions. Et je suis actuellement psychanalyste, analyste psychorganique. Mon champ de recherche, je travaille beaucoup avec le transgénérationnel. Mm. Voilà. J'habite à Paris, j'exerce à la fois à Paris et dans le Loiret, je monte des ateliers pour les femmes pour qu'elles viennent questionner, revisiter leur lignée maternelle, leur féminin, qu'elles revisitent aussi leur sexualité, voilà, je suis à la tête d'une famille recomposée de 3 fratries différentes, et on a 8 enfants à nous deux, voilà.
Ça fait du monde.
Ça fait pas mal de monde, oui, ça fait pas mal de monde. Oui. Et puis encore avant, j'ai commencé mes premières études, j'ai fait de l'histoire à la fac, après mon bac. Et puis après, j'ai fait de la com, et puis j'ai beaucoup vécu à l'étranger, j'ai beaucoup vécu en Afrique, j'ai vécu en Norvège. Voilà. Tout ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup nourri pour pouvoir faire un des plus beaux métiers du monde.
Trop bien.
Qui est psychanalyste.
Alors toi et moi, on s'est rencontrés sur l'île du Levant. Dans le Var, cette île qu'on aime d'amour. On s'est rencontrés la veille de la saison 1 de Aloha qui s'est déroulée en septembre dernier. Et ce fut un vrai coup de cœur professionnel. Depuis, on a pas mal échangé, toi et moi. Et on peut le dire, tu seras présente aux deux prochaines saisons de Aloha 2024, en juin puis en septembre. Ouais. Donc, on est ravis de t'avoir avec nous dans l'équipe des coachs. Donc, les auditrices ont la chance de t'entendre en avant-première et on va donner un avant-goût de ce qui les attend pour celles qui se sont inscrites, en tout cas. Alors, tu l'as dit, tu es analyste psycho-organique. Tu vas nous expliquer, bien sûr, en quoi cela consiste. Tu dis pratiquer une psychothérapie humaniste. On va en parler, bien sûr. Et tu as une spécialité, celle des mémoires transgénérationnelles, particulièrement chez les femmes. Et c'est sur cette thématique que tu vas accompagner les femmes de Aloha. J'ai trop, trop hâte. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, analyste psycho-organique ?
Ça veut dire que c'est-à-dire que moi, ma méthode repose évidemment sur les grands théoriciens de la psychanalyse, donc Freud, Lacan, Jung, Reich, et que je suis à la fois à l'écoute des mots MOTS et des mots du corps. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup le corps et pendant mes séances, je demande à mes patients comment c'est pour vous dans votre corps, là, qu'est-ce que vous sentez? Et ils me disent, c'est tendu, c'est chaud, c'est froid, j'ai des fourmillements et machin. Et ça permet, en fait, de vraiment relier une émotion à une situation. Parce que des fois, on peut me dire des choses, on peut me raconter des choses très douloureuses avec un très grand sourire. Et quand je dis c'est comment là dans votre corps et qu'on me dit oh là là mais j'arrive plus à respirer ou j'ai un nœud dans la gorge, ça dit d'autres choses en fait. Et ça montre que là il y a un petit souci vers lequel il faut peut-être un petit peu travailler. Donc j'écoute beaucoup le corps. J'utilise aussi beaucoup les rêves. Je fais beaucoup d'analyses de rêves de mes patients. Et là je me base surtout beaucoup sur l'analyse des rêves de Jung hein, qui nous a appris à analyser des rêves à la fois au plan du sujet et à la plan de l'objet. Enfin bon, je rentre pas dans le détail, bref. Et puis j'adore mon métier aussi beaucoup et ça compte. Et surtout, j'utilise beaucoup le transgénérationnel.
Juste, je fais une petite aparté sur le rêve parce que c'est super intéressant, parce que le rêve touche à l'inconscient et que comme notre cerveau ne s'arrête jamais, il travaille jour et nuit hein, dans tous les cas. Oui. Il se passe aussi des choses la nuit. Alors, il y a des fois où on s'en souvient et il y a des fois où on s'en souvient pas. Mais les fois où on s'en souvient, moi aussi, j'aime beaucoup venir analyser les rêves. Alors, j'ai évidemment pas ton expertise, donc ça m'intéresse. Je me permets de faire cette petite aparté parce qu'on en a encore jamais parlé sur le podcast des rêves. Est-ce que tu peux nous en parler, puisque ça touche au subconscient, à l'inconscient? C'est quoi les messages de nos rêves?
Oui, ça, je peux vous parler des rêves, d'autant plus que j'adore travailler avec les rêves. D'abord, parce que c'est ce que disait Freud, hein, c'est la voie royale vers l'inconscient. Et le rêve, en fait, est un message qui vient de l'inconscient et qui doit être transmis au conscient. Mmh. Donc, c'est une enquête qu'il faut mener. Mmh. Et moi, quand mes patients arrivent, je leur demande toujours de me raconter leur rêve, en commençant par « je » et en me le disant au présent. Donc, ils me racontent leur rêve. Moi, je prends des notes en général. Je prends en note ce qu'ils me disent, eux, leurs mots. Et je leur demande comment ils se sont sentis, toujours hein, organiquement, quand ils se sont réveillés. Au réveil, c'était comment pour eux? Bon, et puis après, hop, on part dans l'analyse. Et donc, on analyse à la fois tous les éléments du rêve, c'est-à-dire le décor, les éléments qui sont là, le temps qu'il faisait, les gens qui sont présents dans le rêve, parce que l'inconscient, il va t'envoyer des choses qui vont te signifier. Mm. Tu vois, il va pas mettre une table pour comme ça. S'il te met une table, c'est que c'est très important dans ton histoire et que ça fait du lien. Bon. Oui. Et puis après, sur l'analyse au plan du sujet, je demande toujours à mes patients, alors, s'il y avait ma copine truc, mon copain machin, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce que votre inconscient les a mis là, dans ce rêve-là? Et si c'était une partie de vous, quelle partie de vous, votre copine truc et votre copain machin, ils représentent? Vous voyez? Mmh. Et c'est comme ça, en fait, qu'on analyse. Et puis, à la fin, on fait... Bon, après, moi, je suis toujours, évidemment, moi, mon inconscient est mobilisé aussi. C'est une co-construction, c'est-à-dire que moi, je n'interprète pas le rêve, mais c'est eux qui le font. Mais moi, mon inconscient, il est complètement mobilisé pour ça. Et il est à la disposition de l'analyse de ce rêve. Et à la fin, je connais leur histoire. Donc je connais évidemment leur histoire. Donc moi, je peux faire des passerelles. Après, je fais des ponts entre, je leur dis, mais ça, vous m'avez déjà raconté ça. Il s'était passé ça. Comment c'est pour vous quand vous dites ça, quand je fais ce lien-là? Et à la fin, je leur dis, soit c'est un rêve, où il faut, terrasser un dragon. Et en fait, le patient se réveille au moment où il va terrasser le dragon, mais il l'a pas encore fait. Et là, je lui dis, vous fermez les yeux, vous restez allongé, vous respirez, vous re-rentrez dans le rêve et vous terrassez le dragon. En fait, vous faites ce que vous avez envie de faire au dragon, quoi. Et ça permet de sentir sa force, en fait.
Donc, c'est-à-dire que tu peux faire...
Et puis après, j'invite le patient à mettre un mot et à donner le message du rêve, tu vois, pour donner un titre au rêve ou voilà, donner soit un titre au rêve, soit dire, quel est le message que ce rêve m'envoie.
Donc, en fait, t'arrives à le... Forcément, on est sorti du rêve, puisqu'on le verbalise. Et donc, en gros, tu arrives à, une fois qu'on est sorti du rêve, à changer ce rêve, à re-rentrer dans ce rêve, pour reprendre le pouvoir sur cet inconscient.
Oui, oui.
C'est fou.
Oui, ça, c'est le patient qui le fait, c'est pas moi. Hein.
Oui.
Ça, c'est le patient qui le fait. Il referme les yeux, il repart dans son rêve, il fait des respirations s'il a besoin de se détendre, et il imagine ce qui serait bon et juste pour lui de faire.
Et donc,
pour terrasser le dragon.
Donc, juste cette action-là permet de changer quoi, en fait? Ça permet de changer ta réalité?
En fait, ça permet à la fois de changer ta réalité, ça permet certaines fois de contacter ta force, ça permet de te dire « Ah, mais en fait, ça, j'en suis capable. » Tu vois? Ça, c'est transformationnel, en fait. Analyser un rêve, ça transforme. Alors, certaines fois, tu transformes pas tout de suite, ça met plusieurs années. Et puis, tu as aussi une série de très grands rêves qui te marquent.
Oui.
Et je me suis rendu compte que quand on commence un travail en générationnel, en général, mes patients arrivent avec de très grands rêves.
Mmh.
Et ils y reviennent toujours en disant, mais oui, mais vous vous souvenez, on s'était dit ça sur ce rêve-là. En fin de compte, maintenant, là où j'en suis dans mon processus thérapeutique, je pense que c'est plutôt ça. OK?
Et qu'est-ce que tu penses des rêves qui se répète, le même genre de rêve qui se répète? C'est quoi? C'est notre cerveau, notre inconscient qui veut vraiment envoyer le message parce qu'on l'a pas compris.
Ah ben oui, c'est que le patient, le sujet n'a pas compris le message qui est envoyé par son inconscient, et l'inconscient il te le renvoie jusqu'à ce que t'aies pigé. Ah mais c'est exactement ça.
Ok.
C'est exactement ça.
C'est fascinant.
Et les rêves les plus atroces ou les plus sanguinolents et tout peuvent être au fond très joyeux. D'accord, c'est-à-dire que c'est vraiment, faut vraiment les analyser pour prendre de la hauteur et se dire, ben non, on reste pas avec, j'ai plus de bras et je sais pas quoi, tu vois, où il y a du sang partout, machin.
Bien
c'est
sûr.
Il faut vraiment les analyser. C'est
en fait, il faut pas les prendre au premier degré. Tu rêves que ton mari te trompe, ça veut pas dire que ton mari te trompe. Enfin, c'est pas ça
non,
le message.
Bien sûr que non.
Voilà.
Non, bien sûr que non. Mm. Ça peut parler d'une insécurité que tu as. Ça peut parler de l'histoire de tes parents, de tes grands-parents. Enfin, tu vois. Après,
oui.
Il faut vraiment relier ça, tu vois. Et puis, il te trompe très bien, mais où? Est-ce qu'il y avait un lieu? Est-ce que tu as vu un environnement? Et pourquoi il y avait voilà. C'est une enquête, quoi. Tu te transformes en Columbo, et c'est vraiment en Columbo, et tu mènes ton enquête, et tout est signifiant. Parce qu'encore une fois, ton inconscient, il va pas t'envoyer des trucs qui n'ont pas de sens. Lui, ton inconscient, il va t'envoyer un message codé pour que ça vienne à la conscience et que tu prennes conscience de ça, de ce que ça va te dire dans ton histoire, ou ça peut même débloquer une situation pour que tu puisses continuer à avancer vers toi, en fait.
Et pourquoi il y a des rêves dont on se souvient et des rêves qu'on ne se souvient pas? Parce qu'on rêve tout le temps.
On rêve tout le temps. Il y a des rêves dont on ne se souvient pas parce que il y a des gens qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Alors moi, mes patients, quand ils me disent ça, je leur dis, vous avez deux solutions. Soit avant de vous endormir la veille, vous dites à vous que vous avez envie de rêver, que c'est important, que vous aimeriez bien vous en souvenir. Ça marche pas toujours, mais ça peut marcher quand même. Et puis j'avais une de mes formatrices qui m'avait, et alors ça pour le coup ça marche. C'est un petit rituel où tu bois la moitié, tu remplis en te couchant, tu remplis un verre d'eau, tu en bois la moitié quand tu te couches.
Mmh.
Et quand tu te réveilles la nuit, tu finis ton verre. Et tu fais ça 3 nuits. Et en général, après, pour une raison que j'ignore, tu te souviens de tes rêves.
Ok.
C'est des petits trucs. Pensée magique.
Je vais essayer. Et j'adore. Dès ce soir.
Essaye. Mais c'est vrai, oui, il y a des gens qui se souviennent de beaucoup de rêves et d'autres qui s'en souviennent jamais. Mais bon, ça dépend aussi des phases dans la nuit quand tu les fais.
Alors ça, oui, bien sûr.
Je ne suis pas spécialiste de ça, mais...
Trop bien. Qu'est-ce que tu entends par la pratique d'une psychothérapie humaniste? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est une thérapie qui est centrée sur la personne.
Ok.
Et donc, ça veut dire que je laisse jamais mon patient sans rien dire pendant 10 minutes. Ça, c'est les psychanalystes et Lacan qui faisaient ça, qui faisaient des séances de 10 minutes. Le patient, il venait, il disait rien. C'était pas un sujet, bon. Moi, je ne fais jamais ça. Et centrer sur la personne, c'est-à-dire que je suis encore une fois à l'écoute de ce qu'elle dit, de ce qu'elle dit pas et de ce qu'elle ressent.
Mm.
Et c'est vraiment une espèce de... C'est très contenant, en fait, comme thérapie. Moi, je touche pas mes patients, mais je suis quand même là, je contiens, d'accord? C'est moi qui tiens le cadre. Donc, c'est très, très contenant. Et humaniste, ça veut dire que j'y vais très délicatement quand je sens qu'il y a des traumas, il y a de la souffrance, j'y vais très délicatement, je fais attention aux mots que j'utilise, J'y vais très, 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 très cool.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les mémoires transgénérationnelles? Parce que nous sommes toutes concernées, je crois.
On est effectivement toutes concernées. Alors, le transgénérationnel, c'est tout ce dont on a hérité de nos ancêtres, des générations antérieures. Alors, il y a nos parents qui se disent « Ah bah tiens, j'aimerais bien que Marielle transmette ça à Marielle. » Donc ça, ce sont donc des transmissions qui sont pensées, voulues, transmises, dites et machin. Donc ça, il n'y a aucun problème avec ces transmissions-là. On les appelle d'ailleurs des transmissions salutogènes. Et il y a toutes les transmissions pathogènes qui nous ont été transmises par les générations du dessus, que probablement on ne connaîtra jamais, mais qui viennent un peu nous pourrir la vie. Ou en tout cas qui nous enferment dans des schémas dont on a du mal à se sortir. Et donc, certaines fois, il y a des répétitions d'agir sur les femmes notamment, qui choisissent toujours le même genre de mec, pas bien. La grand-mère a fait ça, l'arrière-grand-mère a fait ça, la grand-mère a fait ça, la mère a fait ça, la fille a fait ça. Et là, tu as une lignée de femmes qui se disent « mais je comprends pas, on choisit toujours les mêmes mecs dans la famille, il se passe quoi ?» Et c'est à l'aide du transgénérationnel qu'on va pouvoir dénouer un peu tout ça, comprendre ce qui s'est passé, mettre des mots, remettre les générations à leur place aussi, en disant « bon bah d'accord, alors parce que dans certaines familles, en fait, t'as des sauts générationnels. Et faire du transgénérationnel et dessiner son arbre, ça te permet du coup de te réapproprier ton histoire en disant « Ok, ma grand-mère, elle a été obligée de faire ça, elle a choisi cet homme-là, bon, pour des raisons X ou Y. Ma mère, d'accord, mais moi, est-ce que pour moi, c'est ok de faire ça ? Est-ce que ça, c'est un vrai choix pour moi ? Quelle femme, moi, j'ai envie d'être ? Je sais que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, elles ont été ces femmes-là. Elles ont transmis ça. Mais moi, en fait, c'est pas bon pour moi, c'est pas juste pour moi. Donc ça, je vais pas garder. Par contre, ce que m'a transmis ma grand-mère, ça, je vais le garder parce que c'est très important.
Pour qu'on comprenne bien, parce que oui, c'est notre héritage, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est dans notre ADN en fait, qui se constitue dès la naissance. Ça s'est inscrit dans l'ADN, mais je sais qu'on peut modifier l'ADN. Donc, est-ce que ça s'inscrit dans l'ADN,
ouais, alors,
cet héritage-là?
Oui, alors on sait par exemple les descendants des victimes de la Shoah, on sait qu'ils ont certains gènes et notamment le gène du stress qui est modifié, qui peut être modifié. Bon, mais moi je suis pas du tout sur l'épigénétique. Okay. Moi je suis vraiment sur la psychanalyste, enfin voilà, l'analyste transgénérationnelle. C'est surtout ça qui m'intéresse et c'est comment le patient en fait va se réapproprier son histoire personnelle. C'est-à-dire que bien souvent les patients vont me dire « Ah, mais je sens qu'il y a un truc là au niveau de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, il y a un truc là qui… » Et tout de suite, le patient me dit « Ah, mais je sais pas, je les ai pas connus. » Et je leur dis « C'est pas grave, sentez avec votre corps. Sentez, parce que vous savez, en fait. Vos cellules, c'est peut-être pas l'ADN, en tout cas, mais vos cellules, il y a une mémoire cellulaire, ça on en est sûr, il y a une mémoire cellulaire, qui ont tout encapsulé. Donc, les cellules, elles savent. Donc, si vous sentez qu'il y a un truc… pas chouette qui s'est passé au niveau de la grand-mère et de la grand-mère, ce que vous sentez, c'est bon. Et vous allez sentir peut-être un viol ou je sais pas quoi, enfin un truc très grave. Et ce que vous allez sentir, vous allez pouvoir mettre des mots dessus en disant bah, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être que c'est ça. Et c'est vrai que nous, en transgénérationnel, on fait pas de généalogie. Évidemment, les faits sont très importants, les métiers, les dates de naissance, les accidents, les bon machin. Mais moi, je vais un cran plus loin. Enfin, les transgénérationnels vont un cran plus loin parce que, en fait, sur l'arbre, on peut tout faire. On peut faire un arbre. Moi, j'ai fait des arbres avec mes patients sur qu'est-ce qu'ils connaissent de leur famille et qu'est-ce qu'ils connaissent pas. Donc, c'est l'arbre des méconnaissances. Et là, ils se sont rendus compte que ils ne connaissaient rien du tout. Bon, qu'est-ce que ça leur dit dans leur histoire? Pourquoi c'est comme ça? De quoi ça parle pour eux? Qu'est-ce qui s'est passé pour ne même pas connaître les prénoms, en fait? Moi, je fais aussi inscrire sur les arbres ce que j'appelle, moi, les phrases signatures. C'est-à-dire qu'on a tous des phrases qu'on dit à la vie. Et nos parents aussi, nos grands-parents aussi, et nos arrière-grands-parents aussi. Alors, évidemment, la phrase signature de nos grands-parents, c'est compliqué à connaître. Bon, peut-être qu'ils les ont dit et qu'on les a entendus et qu'on peut. Mais ça aussi, c'est très important. Parce que si la mère, elle dit, oh là là, la vie, c'est dur. La grand-mère, elle dit, oh là là, la vie, c'est dur. Et que nous, en phrase signature, on a « Oh là là, la vie, c'est dur ». Là, on se dit « Ok, tu vois ». C'est vraiment remettre comme ça en perspective des choses. Moi, je fais inscrire aussi beaucoup sur les arbres que je fais faire avec mes patients. Tout ce dont ils ont été. J'avais une patiente qui a fait son arbre transgénérationnel sous l'angle de la violence. Il y avait de la violence verbale et physique dans ces deux lignées. Et un jour, je lui ai dit je vous propose, je vous invite, si c'est OK pour vous, de faire l'arbre, votre arbre, sous l'angle de la violence. Donc, elle commence à écrire. Alors, moi, j'ai donc ce que elle a subi. Qui a fait, donc elle a fait des traits entre les membres de sa famille. Et puis je lui ai dit, mais et puis elle me dit à un moment, elle me dit, mais en fait, je crois que mon grand-père disait X de ma grand-mère, mais moi en fait, je pense que c'est Y. C'est-à-dire que la façon dont il appelait ma grand-mère ou il diagnostiquait ma grand-mère, qui disait oui, ma grand-mère est folle, je sais pas quoi, et ma patiente me dit, en fait, c'est pas vrai. Elle était ça, mais elle n'était pas ce que lui disait. Et le fait de voir, parce qu'évidemment, j'utilise beaucoup de couleurs, j'utilise des grands panneaux, des grandes feuilles comme ça. Le fait de voir aussi, visuellement, ça permet de prendre beaucoup de hauteur et de, et encore une fois, dessiner son arbre, le corps aussi est mobilisé. Et donc, certaines fois, on se dit, ah, mais là, je parle de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, je me sens pas bien, quoi.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça peut aussi nous aider même lorsque l'on ne connaît pas son père, sa mère. Voilà, parce qu'il y a souvent aussi ces sujets-là. Moi, on me pose souvent la question en me disant « Oui, mais bon, moi, je ne connais pas mon père ou comment je fais ?» Et c'est vrai que toute cette lignée-là, cet arbre dont tu parles, on peut difficilement le faire puisqu'on n'a pas la connaissance. Mais comme quoi, c'est possible.
Mais c'est pas grave.
Voilà, en se connectant à ça. Voilà, c'est la représentation qui est importante, mais c'est aussi ce que l'on ressent par rapport à cette représentation et qui nous donne des éléments clés, en fait. Parce que on a ce qu'on appelle un peu dans le jargon, on a engrammé quelque chose dans nos cellules. Donc, engrammé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on l'a programmé. Voilà.
Mettre dans le corps, on a incorporé. Oui.
Exactement. Et donc, en fait, que ce soit inconscient ou inconscient, tout on intègre tout dans le corps. Et de venir se reconnecter à juste la projection de, même si je ne les connais pas, etc., juste qu'est-ce que je ressens, moi, je trouve ça déjà très, très chouette de pouvoir le faire de
énorme.
Cette façon-là.
C'est énorme, en fait.
Parce que ça veut dire que c'est accessible, tu vois, pour tout le monde.
Mais bien sûr, parce que en fait, le corps ne te ment jamais. Le corps ne te ment jamais. Mmh. Et quand j'ai des patients qui me disent, ah ben oui, mais peut-être j'ai peur de recréer des faux souvenirs, je dis, faites, je leur dis pas comme ça, mais en fait, le faux souvenir, il y a pas d'incorporation. Mmh. Donc il y a pas, le corps ne parle pas. Et donc en général, alors peut-être que tu peux être dans des cas où la personne est clivée, elle ressent pas. Bon, mais une fois, deux fois, trois fois, bon, la quatrième, en fait, elle commence à sentir.
Qu'est-ce qu'il appelle
le corps ne ment jamais. Appuyez-vous sur votre corps.
Qu'est-ce qu'il appelle le faux souvenir? C'est quoi un faux souvenir?
T'as des gens, t'as des gens qui disent, oh là là, j'ai peur de, mais non, qui me disent, moi, j'ai des patients qui me disent, mais j'ai peur, en fait, ça se trouve, je sais pas, mais ça se trouve, j'invente des souvenirs.
Ok.
Mais je lui dis, sentez dans votre corps, c'est comment?
C'est parce que là, s'il dit ça, c'est qu'il est dans son mental.
C'est un peu chaud.
S'il dit ça, c'est qu'il est dans son mental.
Exactement, exactement. Et qu'il est pas dans le corps, du coup.
Exactement. C'est ça. C'est ça.
Et comme le corps ne ment jamais, mais vraiment, mais appuyez-vous sur lui, hein, pour toutes vos intuitions, appuyez-vous sur lui, votre corps ne ment pas.
Alors moi, je vois ces mémoires transgénérationnelles comme quelque chose qui peut nous limiter. Je dis souvent que nous héritons naturellement, et on a parlé un peu d'ADN, on hérite de conditionnements, du vécu et des expériences de nos aïeux, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Et cette transmission intergénérationnelle, eh bien, on peut s'en libérer. Dans un premier temps, en en prenant conscience pour comprendre qu'on se prive de beaucoup de possibilités si on est loyal à ses mémoires. Alors attention les filles, l'idée n'est pas de reposer toute la responsabilité sur ses mémoires, mais au contraire de prendre le pouvoir sur ce que vous pouvez en faire. Hein. C'est tout l'objet de nos propos. Hein. Quelles sont les conséquences que l'on peut voir distinctement dans notre quotidien, que nous sommes bloqués ou freinés dans nos mémoires ou par nos mémoires transgénérationnelles? C'est quoi les conséquences que l'on peut voir dans notre quotidien? Comment on peut le détecter, ça?
Il y en a plusieurs. D'abord, tu as toutes les répétitions d'agir qui ne te satisfont pas. Où tu dis, mais je comprends pas, là, ça fait le quatrième mec que je rencontre, il est pas bon pour moi, qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Et puis, tu as aussi, ça c'est les répétitions d'agir, et puis tu as aussi toutes les, comment je vais dire ça, toutes les dettes et les loyautés, les croyances, tu vois, t'as tout ça qui vient un peu te, en te disant, mais ça, je sens que ça m'appartient pas, je sens que c'est pas moi, je sens que j'ai pas envie de prendre la direction là que je m'apprête à prendre, je sens que c'est pas juste pour moi. À partir du moment où tu dis c'est pas juste pour moi, tu sais que ça t'appartient pas. Et que c'est bien de revenir voir, voilà, c'est quoi les loyautés inconscientes? Tu vois, les loyautés inconscientes, c'est qu'on dit, ben, ma grand-mère faisait ça, ma mère fait ça, donc moi je fais ça. Mm. Ben non, en fait. Parce que ça, c'est un non-choix.
Mm. Complètement.
Quels sont, toi, les choix que tu veux faire pour toi? Mais avant d'arriver aux choix que tu veux faire pour toi, il faut d'abord que tu comprennes et surtout que tu sentes que, en fait, ça ne t'appartient pas. Et qu'on est tous drivés par des loyautés invisibles, par des dettes invisibles. Et en fait, ça se transforme aussi après, parce que le transgénérationnel, c'est évidemment fait dans un cadre thérapeutique où tu as des séances qui sont consacrées à faire ton arbre, et puis tu as des séances, et puis certaines fois, tu as des séances après où tu reprends ce que tu as besoin de poser, et puis hop, tu fais des liens. Enfin, c'est un travail itératif, un peu en continu, hein. C'est pas un one shot, en fait. C'est un travail qui est un peu plus long. Quand il y a des... Voilà ce que je peux dire sur ce qui est transmis. Après, je peux aussi te dire un mot peut-être sur l'impact que ça a sur les générations.
Ah oui.
Quand il y a un événement traumatique qui s'est passé à la génération, 4 générations ou 5 générations de la tienne, si elle n'a pas été verbalisée, mise en sens, toi tu vas la récupérer. C'est ce que Bruno Clavier dit, se repasser la patate chaude de génération en génération, quoi. Tout le monde se refile le bébé. Mm. Et là, effectivement, ça peut conduire à des pathologies graves, ça peut conduire à des maladies, à des phobies, à des psychoses, à la psychose. Ça peut aussi venir t'impacter. Par exemple, je me suis rendu compte chez mes patients qui vivent avec un secret de famille. Mm. Donc le secret de famille, hein, c'est un secret de famille inavouable, hein. Donc c'est de l'inceste, la génération du tube. En général, l'inceste, ça tombe comme ça, mais un crime, enfin vraiment quelque chose d'inavouable parce que c'est lié à la honte, quoi. En général, eux, ils ont les gens qui ont vécu dans ces familles à secret, dans ces familles à non-dit, ils posent pas de questions.
Ah oui.
Parce qu'ils ont intégré qu'il faut pas poser de questions. Et qu'ils ont intégré tout petit, hein, tout bébé, que s'ils posent des questions, ça modifie un tout petit peu la dynamique communicationnelle de la famille. Donc, ils tentent une fois, en général, ils en prennent une, et donc, ils ne retentent plus. Mais du coup, quand tu ne poses pas de questions, ça pose quand même des petits problèmes. Parce que comment est-ce que, sans poser de questions, tu peux arriver quand même à essayer de trouver ton chemin, toi, dans ta vie? Parce que si tu te poses la question, tu ne peux pas trouver ton chemin. Pour retrouver ton chemin, il faut que tu te poses des questions. Et puis, il faut élaborer une pensée aussi. Et c'est tout ça, en fait, que tu viens faire en transgénérationnel chez un psy. C'est qu'en fait, tu relances cette impensée-là. C'est-à-dire, le secret dans une famille, c'est un impensé. Personne n'a le droit de penser. Personne n'a le droit de questionner. Et toi, en transgénérationnel, rien qu'en faisant, et c'est déjà énorme, par exemple, en te disant, alors là, sur l'histoire de mon père, j'ai des manques là, j'ai des lacunes du disciple, de ce qui peut être dit. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Eh ben, le transgénérationnel va te permettre de relancer cet impensé-là. Donc, soit tu vas dire, OK, c'est mon père qui a l'information, je vais lui poser des questions. Si ton père veut pas te répondre, eh ben, t'auras pas tes réponses, en fait. Et donc, tu te dis, ben, peut-être que je vais passer par les cousins ou par les oncles et tantes. Mais si je fais comme ça, comment ça me place par rapport à mon père? Qu'est-ce que ça dit de la relation que j'ai avec lui? Enfin, tu vois, c'est passionnant parce que ça vient vraiment chercher à la fois sur les générations antérieures et notre place à nous, quoi.
C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on voit l'impact donc des mémoires transgénérationnelles que nous avons toutes et tous, mais que ça vient même impacter un trait de personnalité, c'est-à-dire que ça devient identitaire. Là, dans ce que tu dis...
Ah, mais oui, complètement, parce que en plus, tu grandis dans une famille ou un secret, donc en fait, tu sais à moitié qui tu es. Il te manque quand même tout. Tu as un manque là dans ton identité à toi, puisque tu n'as pas toute l'histoire. Et ça peut même aller dans les familles à secret, ça peut même aller à les enfants, en fait, ils peuvent aussi avoir des défauts d'apprentissage. Ça peut bloquer leurs pensées et ça peut avoir des, ils peuvent vraiment avoir des défauts d'apprentissage, quoi.
Donc ça modifie un trait de personnalité, ça devient identitaire, c'est-à-dire que ça, c'est contre nature C'est-à-dire que ça vient construire un trait de personnalité qui ne nous appartient pas, mais qu'on pense qu'il nous appartient.
Ça vient construire. En tout cas, ça a un impact sur ta personnalité, sur un événement qui ne t'appartient pas et qui n'a jamais été ni dit, ni mis en sens, ni verbé, quoi. Et donc, pas élaboré. Et donc, le trauma reste à l'état du trauma, génération 3 au-dessus, et les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants, ils disent, mais qu'est-ce que j'en fous? Je sens qu'il y a un truc qui m'impacte, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi?
Ok, donc là, on est à l'étape de la prise de conscience. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça ne suffit pas parce qu'on n'informe qu'une partie du cerveau, le néocortex. Et si on veut atteindre les autres parties du cerveau, telles que le cerveau limbique ou le reptilien, qui sont responsables des émotions, des sentiments, on en a beaucoup parlé. C'est le corps qui nous donne ces informations-là, et de notre sécurité intérieure. Ces parties de notre cerveau vont recevoir l'information par un état de conscience modifié. Comment tu pratiques? Comment on fait pour se libérer de ces mémoires au-delà de la simple, je mets des guillemets, prise de conscience?
Eh ben, je repasse par le corps, en fait, moi. C'est-à-dire que je repasse par à la fois les images, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je travaille aussi beaucoup avec les images où je demande toujours beaucoup à mes patients. Quelle représentation, quelle image de vous vous avez là? Et donc, pour se libérer de quelque chose, ou en tout cas de dire, bon, ben moi, ce qui s'est passé dans ma lignée, ce que les femmes ont fait, ça me convient pas. Moi, je vais faire plutôt ce choix-là. Ça peut repasser par le corps dans un état de, c'est bon et juste pour moi. Et j'en fais l'expérience. Je fais l'expérience une fois de ça où je suis en rupture avec ma façon de faire familiale. Mais je me sens bien. Et comment c'est quand je me sens bien? Ben, je me sens alignée, je me sens centrée. Je sais que là, je suis dans le juste, en fait. Mon corps me le dit, en fait. Je le ressens, j'ai les cellules qui dansent.
Comment tu fais?
Moi, je passe par le corps beaucoup, en fait, et par les images.
Ok. Comment tu fais si tu as quelqu'un qui résiste parce qu'il est encore beaucoup dans son mental, parce qu'il se dit « je ne peux pas être déloyale par rapport à ma famille ». Moi, j'entends beaucoup ça en coaching, mais je ne peux pas faire ça à mes parents, je ne peux pas leur dire ça, ou je ne peux pas me comporter comme ça, ça leur ferait trop de peine, ou je les trahirais. Comment ça, tu le travailles?
Ben, je travaille avec l'histoire de la personne, c'est-à-dire d'abord sur quoi portent les loyautés invisibles, sur quoi elles portent. En général, ces loyautés sont des obligations. Tu peux poser la question de qui fait la loi dans la famille.
Ouais.
Est-ce que c'est OK pour ton client que ce soit la loi de l'arrière-arrière-grand-père qui soit encore en... tout ça, et qu'est-ce que lui il aurait envie de faire, indépendamment des contingences parentales et machin, et dans ce dans quoi il est pris, mais qu'est-ce qui serait bon pour lui. Et puis après, effectivement, aller chez un psy pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on se décolle de ses parents, parce que c'est ça, en fait, hein, comment est-ce qu'on se décolle de ses parents, comment est-ce qu'on s'est identifié à eux. Comment est-ce qu'on se désentifie d'eux pour pouvoir accéder à sa propre vie?
Est-ce qu'il y a différents types de mémoire transgénérationnelle familiale?
Qu'est-ce que tu entends par différents types?
Ben, est-ce
qu'il
y a...
En fait, elle appartient à chaque sujet. Chaque sujet a son... En fait...
Oui, est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, quelque chose qui est lié, par exemple, à l'enfance? Est-ce qu'il y a quelque chose lié au couple? Parce que tout ça, ça reste la sphère familiale. Est-ce qu'il y a différentes sphères dans ces mémoires transgénérationnelles familiales où tout est lié, tout est commun?
En fait, ça appartient à l'histoire de chacun et chacune. Par exemple, tu peux avoir une patiente, encore une fois, la patiente qui dit, ça fait le quatrième mec que je rencontre, que ça fonctionne pas. Et puis, chacun a sa mémoire, en fait.
Ok, il n'y a qu'une seule mémoire. Une mémoire égale une histoire.
Alors, vas-y.
Une mémoire égale une histoire. Je suis désolée, il y a un décalage du coup quand on parle.
Il y a une mémoire qui est liée à une histoire, sauf que toi, tu es le fruit d'une lignée maternelle et paternelle qui eux-mêmes sont le fruit, machin. Bon. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de lignées. Mais ça, on parle d'une seule mémoire. Ok. Donc ça, c'est la mémoire personnelle. Mais tu peux aussi avoir une mémoire familiale. Bon. t'as ta mémoire personnelle, après t'as ta mémoire familiale, et puis t'as aussi la mémoire collective. En fait, là, c'est Jung qui m'y fait penser, parce que c'est lui qui a inventé en fait les trois niveaux d'inconscient, l'inconscient personnel, l'inconscient familial et l'inconscient collectif. C'est-à-dire comment effectivement l'actualité, les grands événements de l'histoire était un grand H, vient impacter notre histoire à nous avec un petit H. Mais tout ça est effectivement très lié.
OK. Justement, quelle est la quelle est la différence entre les mémoires transgénérationnelles et intergénérationnelles?
Les mémoires transgénérationnelles, c'est du top down, j'allais dire, hein, c'est les générations du dessus qui impactent nous, et intergénérationnelles, c'est comme ça. Mais en général, les mémoires intergénérationnelles ou intragénérationnelles sont impactées par les mémoires transgénérationnelles.
Ok, donc dans la mémoire transgénérationnelle, en fait, il y a plus quelque chose de vertical. Et dans les mémoires intergénérationnelles, parce qu'en fait, nous, on se voit, mais les auditrices, on ne voit pas les gestes qu'on fait. Dans les mémoires intergénérationnelles, on est sur de l'horizontal. C'est ça? Ça se croise de façon horizontale.
Entre les générations. Okay. Voilà, dans une même génération. Oui.
Ok. Très bien. Mmh. Super. Tu vas animer justement un atelier entier sur cette thématique dans les prochaines immersions à l'OA. Est-ce que tu peux nous révéler, alors pas tout, hein, évidemment, mais un petit bout de ce qui composerait cet atelier pour les participantes des saisons 2 et 3 prévues l'année prochaine, enfin 2024?
Alors, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de faire que les femmes se questionnent sur leur féminité, sur la sexualité, sur leur sexualité, de quoi est-ce qu'elles ont hérité, dans quoi est-ce qu'elles sont enfermées, qu'est-ce qu'elles veulent garder, qu'est-ce qu'elles veulent transformer. Donc j'aimerais bien leur faire travailler là-dessus. Donc moi j'utilise un outil qui s'appelle le rêve éveillé dirigé. Donc c'est une trame que moi j'ai construite et qui leur permet, donc elles vont être allongées, les yeux fermés, elles vont respirer, on va prendre un temps pour machin. Et ça va leur permettre de se recontacter avec elles, à elles-mêmes, et aussi à leur mère et leur grand-mère et leurs arrière-grand-mères, pour essayer de comprendre c'est quoi être une femme dans leur famille, comment est-ce qu'on parle des femmes dans leur famille, qu'est-ce qu'on a dit sur les femmes dans leur famille, et au fond, quelle femme elle souhaite être.
Génial.
Voilà ce que je peux en dire.
Bon, ben j'ai hâte.
Et c'est top.
Ça me fascine parce que, évidemment, c'est des sujets sur lesquels je m'intéresse beaucoup. Avant de te connaître, j'avais fait une séance avec quelqu'un qui... Alors, c'était très technique. On était allé sur la mémoire transgénérationnelle, mais... il avait une approche qui était très chiffrée, je sais pas pourquoi, tu vois, il sortait beaucoup de chiffres, etc. C'était très mathématique et donc ça m'a un petit peu perdue, si tu veux, dans le processus. Et je trouve que ta pratique à toi, je trouve que la façon dont tu amènes les choses, on revient en fait à notre nature. Ce que l'on ressent, c'est ce qui est le plus important au monde, en fin de compte.
C'est ce qui est vrai.
Voilà.
C'est ce qui est vrai.
Voilà, ça ment pas. Ça ment pas parce que en fait une émotion. Pour que cette émotion, on puisse comprendre le message, il faut qu'elle passe par le corps. Donc le corps nous envoie un signal et c'est à nous bien sûr de détecter ce signal. Mais c'est un indicateur. Et en fait, comme on nous a pas appris à comprendre nos émotions, déjà à la base, on nous a appris que certaines émotions elles étaient bien et d'autres elles étaient mal. Donc déjà rien que là, déjà il y a un souci. Il n'y a aucune émotion mauvaise. Elles ont toutes juste un message à nous donner pour qu'on soit constamment à la recherche du bien-être, du bonheur. C'est vital, c'est une question de survie. Notre technologie intérieure fonctionne comme ça. Et donc déjà de se dire, si je suis triste, c'est une mauvaise émotion, là déjà, ça commence très mal. Donc déjà, c'est de se dire, c'est pas binaire, il n'y a pas du bien ou du mauvais. Toutes ont leur place et ont leur raison. Et la deuxième chose, c'est nous apprendre à accepter, à ne pas lutter contre ces émotions-là. Souvent on dit, mais là, je ne peux pas être faible. Mais en fait, plus on lutte contre une émotion, plus on vient l'amplifier, la nourrir. Et c'est là où elle commence en fait à nous envahir et à ne pas nous faire du bien, alors qu'à la base, c'est une émotion, qu'on prend le message et elle s'en va, tu vois.
Mais tu as tout à fait raison, Marielle. Je partage complètement ce que tu dis. Et je dirais aussi que, pour compléter ton propos, je dirais que on nous apprend pas à nommer les émotions,
Ouais.
à les nommer. Il y a plein de gens, moi, dans ma patientèle, qui confondent colère et tristesse, par exemple.
Ah
Ils
ouais.
savent pas quand c'est en colère, quand ils sont tristes. Ou qui ne sentent même pas. Alors moi, la colère, elle monte. Parce que moi, je suis très mobilisée avec eux. Donc moi, la colère, mais c'est pas la mienne, c'est la leur. Mais moi, je sens. Et alors, je leur dis, mais vous sentez là, vous sentez que ce que je m'anime, voilà. Donc vous, ça parle de votre colère à vous, en fait, c'est pas la mienne. Hein, bon. Et puis, il y a aussi, tu as tout à fait raison. Les émotions que nous ressentons, il faut évidemment les accueillir. Mais les gens, en fait, ils ont peur de rester bloqués ou
C'est
dans la
ça.
colère ou dans la tristesse pendant des années-lumière. Et en fait, l'émotion, c'est pas ça. Elle va, elle vient. Et quand elle arrive, il faut l'accueillir vraiment. Parce que si on la met sous cloche, à un moment, ça va sortir sous forme de pétage de plomb, de maladie, de je sais pas quoi. Enfin bon, ça va pas
Complètement.
aller, quoi. En tout cas, ça, elle va pas aller. Alors qu'elle peut nous apporter plein de choses. Faut
Complètement.
vraiment la prendre en compte et l'accueillir. Et se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour moi là? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me rend en colère?
Qu'est-ce qui me
Pourquoi
fait
là,
peur?
j'ai pris des dégoûts? Ben oui, mais il peut y avoir plein de choses.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est passionnant. Alors après, comme on ne nous a pas appris à le faire, c'est vrai qu'il faut mettre de la conscience dessus, il faut créer les conditions, mais je pense que c'est un exercice que plus vous le faites, plus vous le pratiquez, et plus il devient facile, et plus il devient facile, et plus il devient naturel. Vraiment, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer chaque fois. Peut-être qu'au début, ça va être un petit peu difficile, mais à force de le faire, ça va devenir naturel parce que c'est notre état d'être, en fait. On est des êtres sociaux, des êtres d'émotion, on est humain et on ne peut pas avoir zéro émotion. On ne peut pas être toujours au top, on ne peut pas toujours être mal. On voit bien que rien n'est constant. Donc voilà, c'est tout est OK, en fait, tout est OK.
Oui, et puis moi, ce que je dis souvent à mes patients, je leur dis, mais prenez un temps pour vous, pour sentir comment c'est dans votre corps. Quand vous êtes dans une situation et que vous sentez qu'il y a un truc qui ça va pas pour vous, prenez un temps pour vous recentrer, vous regarder à l'intérieur de vous et vous vous dites, mais comment c'est pour moi à l'intérieur de mon corps, quoi. Et c'est OK de se dire ça. Et c'est même plutôt sain, en fait.
Oui, c'est sain.
De
Et
prendre un
puis,
temps plutôt que de foncer tête baissée en disant c'est pas confortable, mais hop, j'y vais, puis soit je pleure, soit je hurle, soit je sais pas quoi. Ben non, accueillez ça.
ouais, tout à fait. Alors, j'ai l'habitude de demander à chacune de mes invitées de sélectionner un objet qui a une valeur particulière à ses yeux. Lequel as-tu choisi,
Oui.
Isabelle?
Alors moi, j'ai choisi une lampe à huile, enfin deux lampes à huile, qui datent du 18e siècle, qui proviennent probablement d'Afrique du Nord, qui m'ont été données par qui m'ont été données par ma grand-mère, qui faisait la collection de lampes à huile. Et en fait, ce sont deux très beaux objets qui me rappellent à la fois d'où je viens, alors pas d'Afrique du Nord, mais de mon identité, une partie de mon identité, et puis qui me reconnectent à cette génération-là, parce que je pense que elles ont dû passer pas mal de générations, ces lampes à huile. Donc, je suis là aussi dans la transmission. Et je pense qu'elles finiront aussi chez mes enfants. Et c'est très important pour moi. Je suis à la fois dépositaire, je sais pas comment on dit hein, pour les femmes, dépositrice et passeuse, passeur d'objets,
Ouais,
passeuse
passeuse.
d'histoire.
Ouais,
Enfin,
passeuse, bien sûr. Ouais, on est des passeuses. Mais
ouais.
c'est bien, on est dans le thème. On est dans ton thème.
Complètement, complètement, ouais, complètement,
Ces
complètement.
lampes à huile représentent l'héritage que tu as envie de garder.
Exactement, exactement,
Trop
exactement.
chouette.
Et qui me reconnecte à moi et à elle aussi. Enfin bon, voilà.
Quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game?
Ah, c'est une bonne question. J'aime entendre les femmes qui ont des projets et puis qui se plantent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elles, elles, elles, évidemment qu'elles arrivent à mettre en place leurs projets, hein, c'est pas le sujet, mais comment est-ce qu'elles font, quelles ressources internes elles mobilisent pour redresser la tête et dire, OK, bon, là, ça n'a pas marché, mais ça, si je prends cette direction-là, peut-être ça va marcher. C'est toutes ces histoires-là de femmes, voilà, qu'est-ce que, c'est, en fait, c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce que les gens font. Parce qu'en fait, c'est inspirant. Et on est tous, évidemment, interconnectés. Nous, si on a eu ce coup de cœur toutes les deux, c'est pas un hasard, on l'a pas analysé, mais bon, tout ça, il y aurait probablement plein de choses à dire dessus. On est tous interconnectés, tous et tous interconnectés, et les femmes qui ont des projets, des rêves, qui tâtonnent, qui essayent, qui tombent une fois, qui se relèvent, qu'est-ce qu'elles mobilisent en elles, où est-ce qu'elles vont chercher leurs ressources, où est-ce qu'elles ont cet espace de créativité-là? C'est tout ça, moi, qui m'intéresse beaucoup.
Génial. J'en ai déjà quelques-unes en tête, donc c'est parfait. C'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu?
C'est une femme qui assume ses fragilités, qui assume, qui sait qu'elle est responsable de ce qu'elle fait et de ce qu'elle fait pas. Et qui se demande régulièrement comment c'est pour moi là, ce que je suis en train de vivre. Est-ce que c'est OK? Est-ce que moi je trouve que je suis à la ma bonne place? Est-ce que voilà, est-ce que c'est juste là ce que je suis en train de vivre?
Il y a quelque chose de l'ordre de je me consulte constamment.
Ah, toujours. 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 Moi, c'est ce que je dis à mes patients. Je dis, vous venez en thérapie pour vous remettre au centre de votre univers. C'est ça. La thérapie, c'est un voyage vers vous-même. Et vous-même, là, vous allez vous placer au centre de votre village, de votre univers. C'est ça que vous faites. Alors, des fois, après, je les fais marrer parce que je leur dis, mais ils me disent, ah oui, mais alors, je dois faucon, il y a quatre qui émus. Je dis, non, non, non. Alors là, ça, ce que vous me dites, c'est le conseil d'administration. Il y a trop de monde, sauf vous. Donc, carrément. Vous allez vous remettre, vous, dans votre conseil d'administration et virer tous les papa, maman, grand-père, grand-mère, grand-père, grand-mère, machin. Ou alors, vous allez dire, OK, alors, papa, il m'a donné ça, très bien, bon, je le garde, mais en fait, sur cette thématique-là, je vais pas faire comme il me dit parce que c'est pas bon pour moi. C'est se replacer au cœur du village.
Pourquoi c'est si difficile
et se dire
de...
vraiment, mais, ah oui, bah oui, c'est difficile.
Pourquoi c'est si difficile de décider de sa vie, de choisir?
Ben parce que on est impacté par du transgénérationnel qui nous empêche, on est empêché par des loyautés, par des non-dits, par des croyances, par des contrats familiaux. J'en ai pas parlé, mais ça je le réserve pour les participantes d'Aloha ou un autre podcast. On est empêché par un tas de choses, par un surmoi, par des voilà, le père, la mère, tout ça, on est empêché. Et à un moment, c'est bien de se poser et de dire, mais moi, quelle direction c'est quoi mon choix, c'est quoi mes désirs? Est-ce que le désir que j'ai là, le choix que je suis en train de faire, est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que c'est un non-choix?
Ouais.
Quand on est dans des répétitions d'agir, c'est pas des vrais choix, c'est des non-choix. Et vraiment prendre le temps, mais même au quotidien, hein, de se dire, mais comment c'est pour moi là? Comment c'est pour moi? Comment je me sens? Comment je suis?
Peut-être que tu pourras pas répondre, mais je la pose quand même. Certaines personnes, c'est pour ça que j'essaye d'anticiper les futures questions, les éventuelles questions de nos auditrices. Comment tu fais pour te sortir d'une situation où tu es consciente, tu le sais, que là, c'est pas OK pour toi, d'accord? Mais que par peur, c'est souvent par peur, bien sûr, tu fais le choix... Pardon. Tu fais le choix de ne pas te sortir de cette situation, donc comme si quelque part ce choix était décidé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, t'es consciente que c'est
très
pas
bien.
Ce qu'il te faut,
très
mais
bien.
Quelque part tu choisis quelque chose que tu ne choisis pas.
Mais oui. Eh ben, je vais te dire. D'abord, quand tu sens que t'as du mal à sortir d'un choix, que t'arrives pas à faire, que t'as du mal à sortir d'une situation qui te rend pas heureuse, tu fonces chez un psy.
OK.
Parce que il va falloir que tu, non pas que, parce que ça veut dire que si tu n'arrives pas à en sortir, c'est-à-dire que tu trouves des bénéfices.
Oui.
Inconscient. Hein. Là, c'est au niveau inconscient dont je parle. Les bénéfices, évidemment, quelqu'un qui reste bloqué avec son patron qui la harcèle et qui n'arrive pas à en sortir, parce que si, parce que ça, parce que truc, parce que bûche, ça peut paraître énorme ce que je dis, évidemment, parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont vraiment coincées dans un truc, mais c'est important quand même de se dire, et de tout décortiquer, c'est-à-dire que si je reste avec un patron qui ne me reconnaît pas, je lui fais je passe trop de temps à bosser, qu'est-ce que ça dit de la relation avec mon père, qu'est-ce que ça dit de la relation avec une personne toxique, qu'est-ce que ça dit moi du fait que je n'arrive pas à poser mes limites, tu vois, ça peut aussi être ça, pourquoi je n'arrive pas à dire non, qu'est-ce qui fait dans mon histoire que je n'ai pas pu dire non, est-ce que quand j'ai dit non à 3 ans, mes parents ils ont accueilli mon non, est-ce que j'ai été entendue dans mon non, il s'agit pas pour les parents de dire oui à tous les noms des gosses, il s'agit d'accueillir le non en disant ça effectivement tu peux, ça c'est interdit, et ils posent la loi. Tu vois?
Ok.
C'est plutôt c'est aller en thérapie, c'est aussi se dire, bah, c'est réexaminer, revisiter, les limites que tu as des difficultés à poser. Pourquoi t'as des difficultés à poser tes limites? Pourquoi, en disant non à l'autre, t'as l'impression que tu vas le blesser et machin, alors que, en disant non à l'autre, à quoi tu dis oui pour toi? C'est pas à l'autre que tu dis non. C'est à toi. Tu dis oui à toi.
Oui.
Quand l'autre te dit, bah, viens, Marielle, on va se faire un ciné à 22 heures, toi, 22h, t'es avec ton mec, en me disant non à moi, tu vas dire oui à toi, à ton moment avec ton mec en amoureuse, tu vois. Et la façon dont moi, je vais réagir à ce non-là, ça m'appartient, ça t'appartient pas, ça m'appartient à moi. Pour ça que le quand on dit non à l'autre, à quoi on dit oui pour soi.
C'est ça.
Et ça s'appelle le non joyeux, il faut le travailler, hein, c'est un muscle, hein, mais c'est très important, quoi. Très, très important, parce que du coup, ça, tu changes complètement ta façon de ta perspective, en fait.
On va terminer sur
non à l'autre, tu dis oui à toi.
On va terminer sur cette question, justement, comment tu peux travailler ça au quotidien ? Est-ce que tu as quelques petites astuces à nous donner avant de venir te voir ou venir voir quelqu'un d'autre, bien sûr. Comment on peut travailler ces petites choses ? Ça se travaille au quotidien, on peut mettre en place des petites astuces.
Ben oui, c'est-à-dire que vraiment, enfin moi, les deux que je donnerais, c'est prendre du temps pour soi au quotidien, pour se regarder à l'intérieur de soi, comment je me sens là, ce que je suis en train de vivre. J'ai pondu un rapport de 45 pages jusqu'à 3h du matin. Mon boss, il me dit « Ah non, ça va pas, c'est nul ». Ben non, en fait, c'est pas comme ça. Ça va pas. Qu'est-ce qui est nul ? Est-ce que c'est à la page 3 ou à la page 10 ? Et la page 3, est-ce que c'est une virgule ou est-ce que c'est une idée majeure ? Bon, comment c'est pour moi quand il m'engueule comme ça ? Comment c'est pour moi ? D'accord ? Donc vraiment, se poser cette question-là, faire un retour sur soi et se regarder à l'intérieur. Et puis, c'est vraiment poser des limites, quoi. Poser ses propres limites en disant non à ce que l'autre dit. Mais pas en disant non à l'autre, en disant non à l'autre à quoi je dis oui pour moi. Et avoir cette bascule, en fait, hein, de perspective, et presque paradigmique, quoi, parce que, en fait, tu dis pas non à l'autre, tu dis juste oui à toi. Donc, voilà. Et c'est OK.
Oui, tout est toujours juste pour nous.
Et ben oui. Quand c'est pour soi, c'est juste, oui.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Isabelle? Où est-ce qu'on peut te trouver pour te contacter?
Ah, on peut me trouver sur psychologue.net, on peut me trouver sur mon site internet dont j'ai pas l'adresse en tête. Je suis sur internet, moi, je suis Isabelle Candel ou Isabelle Fort Candel, voilà.
Ok, je mettrai tous les liens en barre d'information de ce podcast pour que vous puissiez retrouver Isabelle et la contacter si besoin. Son site est très très bien fait, évidemment je suis allée le consulter pour la préparation de cet épisode, évidemment, et il y a aussi, je crois, dessus des articles de blog.
Exactement, parce que j'ai écrit aussi beaucoup sur les femmes qui avaient un cancer du sein et au moment d'Octobre Rose, et on a mené une petite enquête avec une de mes collègues, et on a écrit des articles sur les femmes et sur le cancer du sein, comment elles gèrent, tout à fait.
Génial. Eh ben, merci beaucoup Isabelle pour ton temps et toutes les pépites que tu nous as transmises dans cet épisode.
Avec grand plaisir, c'était vraiment un bonheur de cette heure d'échange qui est passée, mais tellement vite.
Ça va vite.
Tellement
hein.
vite. Merci beaucoup à toi, Marielle. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour les femmes. Merci.
Merci, à très bientôt. Bye bye.
Au revoir. Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous êtes des meufs en or. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposer un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye.